Allez, Canal Bull fait sa rentrée.
Canal Bull. On parle de BD dans le mag.
Et romans graphiques aussi. Enfin, pour des bouquins avec beaucoup d'images, quoi.
Canal Bull.
Ouais, Canal Bull, ce n'est pas que la rentrée sociale en ce mardi 12 septembre, c'est aussi la rentrée de la chronique bande dessinée dans le magazine de Canal Sud. Alors pour ce premier numéro de la saison, je vous emmène au Moyen-Âge, à travers l'un des mythes les plus célèbres de cette époque, célèbre encore de nos jours, un récit qui nous vient de la tradition orale bretonne, celte en tout cas, passé à l'écrit à partir du XIIe siècle par des gens comme Chrétien de Troyes, Normand Béroulle, Thomas d'Angleterre. Il s'agit de l'histoire légendaire de Tristan et Iseult. Extrait de l'album Wurda Ita du groupe Magma, vous avez sûrement reconnu. Alors pourquoi ce son, allez-vous vous dire? Eh bien parce qu'il est tiré de la bande originale du film Tristan et Iseult de Yvan Lagrange, sorti en 1972. Alors évidemment c'est une des nombreuses déclinaisons de cette histoire d'amour plus forte que la mort. Une histoire ouverte, comme l'écrit le professeur Laurence Mathé-Maille dans la postface du livre qui nous intéresse aujourd'hui. Une histoire ouverte, celle de la tentation de l'amour absolu, et une histoire ouverte donc toujours rappropriable, réadaptable, détournable à l'infini dans les moyens d'expression les plus divers, romans, films, peintures, etc. etc. Mais peu repris par la BD jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai bien retrouvé la trace d'une ou deux adaptations en album, mais rien de très notable, au contraire de ce Tristan et Iseult signé Saint-Jean au dessin et Agnès Maupré au scénario, paru chez Gallimard, ce Tristan et Iseult qui est donc l'objet de cette première chronique de l'année. Alors Agnès Maupré, alors c'est elle, hein, c'est elle qui nous a d'abord attiré vers ce bouquin. Est-ce que vous connaissez, auditrice, auditeur, le formidable boulot de cette jeune auteure? Elle est née en 1983, qui a signé notamment aux éditions Ankama deux formidables récits en deux tomes. Alors d'abord en 2014-2015, Le Chevalier d'Éon, qui retrace l'étonnant parcours de cet espion célèbre, hein, travesti, espion de Louis XV. Très réussi, mais alors mon favori, sorti quelques années avant, c'était son Milady de Winter, épatante relecture du destin de la célèbre méchante des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. En 273 planches, en noir et blanc, avec son trait énergique, Agnès Maupré y réhabilitait la dite Milady de Winter dans une vision féministe réjouissante. Chez elle, Milady n'est plus ce personnage talentueux, mais symbole de toutes les fourberies. C'est simplement une femme forte qui a le tort d'être forte et rebelle et talentueuse dans un monde tenu par les hommes et elle va le payer ça très cher. Alors ce double album était passé, à mon avis, un peu trop inaperçu. Hein. Et c'est à redécouvrir absolument. C'est facile d'ailleurs parce que Ankama a eu la bonne idée de le sortir en intégrale fin 2015. Et puis pour les Toulousains, Toulousaines, c'est bien sûr dénichable dans les médiathèques de la ville. Alors, du coup, vous l'avez compris, quand Agnès Maupré sort un nouvel album, je ne peux pas m'empêcher d'aller y voir de plus près. C'est ce qui m'a amené donc à ce Tristan et Isolde version 2017 qui est sorti juste avant l'été. Alors là, elle ne signe que le scénario hein, ici, enfin que, c'est déjà pas mal. Elle est simplement au scénario et elle a confié le dessin à Saint-Jean avec qui elle a fait les Beaux-Arts. Saint-Jean qu'on connaissait surtout jusqu'ici pour avoir dessiné la série Bienvenue sur un scénar de Marguerite Abouette. Alors le dessin de Saint-Jean s'inscrit clairement dans la ligne claire. Son trait est plus sage, on peut le dire, plus rond que celui d'Agnès Maupré. Alors c'est pour moi un petit regret quand même qu'elle n'ait pas décidé de se mettre elle-même au dessin, qu'elle n'ait pas décidé de mettre en image son propre scénario, car son style un peu nerveux, comme dicté par une certaine urgence, a quelque chose d'un petit peu sauvage qui, à mon avis, aurait collé parfaitement à cette histoire d'amour passionnel incontrôlable. Mais enfin, ça n'enlève évidemment rien au talent de Saint-Jean, hein, qui montre un très beau sens de la mise en page, de la mise en case, et qui nous offre quelques morceaux de bravoure, comme ces scènes de combat, alors l'une contre un énorme sanglier, et puis une au tout début d'album contre un dragon rose psychédélique. Rose psychédélique parce qu'il faut aussi en effet parler du travail de la couleur. Alors là aussi, signé Saint-Jean, remarquable travail de la couleur, tout en teinte pastel fluo. Alors on est très loin du réalisme, ce qui nous amène parfaitement du côté de la légende, de la fantasmagorie, des sentiments qui supplantent la raison. Tout ça avec un côté très pop. C'est peut-être un des aspects d'ailleurs les plus modernes de cette version de Tristan et Isolde, parce que même si le projet nous est un petit peu vendu comme ça, comme une modernisation de ce mythe ancestral, celle-ci est en fait assez légère. La relecture d'Agnès Maupré est moins une modernisation qu'une réinterprétation personnelle, qu'elle veut selon ses propres dires intemporelle. Pas tellement de réflexion d'ailleurs ici marquée sur le genre, alors que dans ses albums Milady de Winter, et le Chevalier d'Éon, ces questions du genre étaient vraiment centrales. Là, ce qui l'intéresse, c'est surtout, on le sent, de vider la légende de cet idéal d'amour courtois, si médiéval et qui lui est si souvent rattaché, le plus souvent rattaché. Ici, l'amour est brutal, sauvage, il est pulsionnel, surtout il est physique. Dans cette première scène de sexe entre les deux amants, on ressent d'ailleurs une très grande férocité. Des amants qui, tout au long de l'album, ne renoncent réellement qu'une seule fois à s'unir charnellement. C'est lorsque, piégés dans les bois, affaiblis par le froid d'un hiver particulièrement rigoureux, ils ont besoin de toute leur force pour assurer leur survie. Voilà, alors au final, c'est un album... j'avoue qui interroge, qui semble nous amener sur des chemins un petit peu contradictoires. Agnès Maupré livre un récit qui nous parle parfois avec crudité d'ailleurs de la violence de l'amour, mais en même temps, peut-être dans sa volonté d'intemporalité, elle nous amène aussi vers quelque chose qui relève du conte, avec une dimension assez légère, voire des fois un petit peu faussement enfantine. Et tout ça un petit peu d'ailleurs comme le traitement graphique de Saint-Jean hein, dont on parlait tout à l'heure. Il y a là un mélange des genres, une ambivalence qui fait un peu la force et la faiblesse certainement de cet album, et en même temps qui lui donne aussi sa saveur, une saveur assez atypique. Bon, c'est incontestablement un travail à découvrir, on en sort captivé. On a envie de s'y replonger, hein, on a envie de le relire, ce Tristan et Isolde. C'est un album qu'on n'épuise pas comme ça à la première lecture. Voilà. Donc Tristan et Isolde par Agnès Maupré et Saint-Jean, édité chez Gallimard, ma première recommandation de l'année. Alors un mot d'ailleurs bon, sur Gallimard, éditeur extrêmement célèbre, on ne va pas le représenter. On ne connaît pas forcément très bien sa branche BD. Pourtant, le catalogue fourmille de petites pépites. On parlait tiens d'ailleurs de Saint-Jean et de son travail avec Marguerite Abouet, bienvenue hein. Marguerite Abouet a également signé chez Gallimard la formidable série Aya de Yopungon qui a été adaptée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin il y a quelques années en dessin animé en film d'animation. Alors ça c'est dans la collection Bayou, très bonne collection dans laquelle on retrouve aussi la trilogie L'année du lièvre que j'avais déjà défendue sur cette antenne. Le Tristan et Isolde lui il est dans la collection publiée dans la collection Fétiche qui regroupe des albums qui revisitent des textes du catalogue Gallimard. Bon, on imagine bien qu'il y a une version quelconque de Tristan et Isolde, effectivement, dans le très vaste catalogue Gallimard. Dans cette même collection fétiche, on trouve aussi une adaptation de Zazie dans le métro par Clément Houbrerie, ça je vous la recommande également, et sorti en 2008, Les Contes du chat perché, déjà signé Agnès Maupré.
Canal Bulle.
Allez, comme à notre habitude, après cette chronique, quelques brèves. D'abord, pour vous parler du festival de bande dessinée de Colomiers, un des festivals les plus enthousiasmants autour de Toulouse. Les dates sont tombées, ce sera les 17, 18 et 19 novembre prochains. Évidemment, on en reparlera dans Canal Bulle et sur l'antenne de Canal Sud. Quelques noms déjà sont annoncés, notamment Fab Caro, hein, qui est l'auteur de ce très chouette Zai 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 Zai. Je ne sais pas si vous avez lu ça, si vous l'avez pas lu, Julien fait nom de la tête derrière la vitre, mais ça c'est un petit bijou d'humour absurde à aller lire. Il y aura également Mathieu Sapin qui sera présent, et puis pour côté musique, on annonce la venue à nouveau de la colonie de vacances qui sera au bikini en after de ce festival BD de Colomiers. Ce sera le 22 novembre. Voilà, allez, toujours en bref, on avait parlé, c'était la première chronique d'ailleurs de Canal Bulle, on vous avait parlé de ce formidable projet signé Ed Piskor, auteur de bande dessinée indépendante, on va dire, de comics indépendants américains. Il s'est lancé dans une histoire du hip-hop, de la musique, donc évidemment DJ, MC, beatboxer, mais aussi de tout le mouvement hip-hop en général. Ça s'appelle Hip-Hop Family Tree, le premier volume était sorti au printemps, vous en avez parlé, eh bien je vous signale que le tome 2 est paru juste avant l'été, le jour de la fête de la musique d'ailleurs, le 21 juin, deuxième tome qui s'intéresse aux années de 1981 à 1983, c'est édité chez Papa Guédé. Voilà, donc continuez à suivre cette épatante série Hip Hop Family Tree. Et enfin, dernière brève, puisque décidément on n'arrive pas à faire un Canal Bulle sans vous parler d'un décès dans le monde de la bande dessinée. Ce week-end est mort Len Wein à 69 ans. C'était le créateur du personnage de Wolverine notamment. Hein. Il avait relancé les X-Men en 75 alors que la série s'était interrompue pendant quelques années. Et, c'est également le co-créateur de la créature des marais, hein, The Swamp Thing. Et ça a été également un grand éditeur chez DC Comics. Voilà, Len Wein mort à 69 ans ce week-end. On lui rendait un petit hommage dans ce Canal Bulle qui reviendra bientôt vous parler bande dessinée dans le mag de Canal Sud.
Yo, 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 yo,